Puisqu'on vient d'évoquer Montesquieu, un frère parfaitement respectable, je crois qu'aussi, il est une chose qu'on lui doit, c'est la séparation des pouvoirs.
Absolument.
Or, la séparation du pouvoir apparaît d'autant plus nécessaire entre l'ordre maçonnique, qui lui a pour vocation d'amener les adeptes reçus dans l'ordre à leur propre perfection et à leur progression dans leur quête initiatique. À côté, mais de manière que l'on voudrait séparer, mais qui, hélas, ne l'est pas, se trouve la structure strictement profane de l'obédience, qui est une direction du personnel, si j'ose dire, et une agence comptable. Et donc, malheureusement, les maçons anglais qui se sont réunis à Loi et le Grill ont fâcheusement intitulé Grande Loge de Londres et de Westminster, introduisant une confusion entre le spirituel et le temporel dont on n'a pas fini de s'en sortir. C'est la raison pour laquelle je vous remercie d'avoir cité Montesquieu, son principe de la séparation des pouvoirs, car c'est là quelque chose dont la franc-maçonnerie pourrait s'inspirer.
Je suis tout à fait d'accord et je relisais il y a quelques jours une citation dans le cadre d'un récit qui n'a aucun rapport avec la maçonnerie, mais on cite Thomas Hobbes qui dit très justement, et je crois que c'est définitif, « Le pouvoir, c'est être crédité de pouvoir. » Et effectivement, le président de l'association de 1901, quel grand maître où qu'il soit, est amené parfois à tenir des raisonnements qui n'ont aucun rapport avec le grand architecte de l'univers ou ses représentants ou ses correspondances. Il y a effectivement une séparation nécessaire qui n'est pas toujours évidente pour chacun. Non, mais la confusion, non pas la confusion des pouvoirs, mais la confusion des genres est un péril qui guette toutes les obédiences du monde si on y prend garde. Et c'est pourquoi la séparation des pouvoirs administratifs et spirituels est tout à fait convenable. Parce que les gens, c'est toujours pareil. Je le disais très rapidement, mais lorsqu'on est d'une obédience qui va manifester avec des cordons dans la rue. Un jour, on m'a fait cette réflexion extraordinaire. On me propose, à l'époque, j'étais à la place d'un troisième successeur déjà. Et moi, j'avais le dossard numéro 12 dans l'obédience. Hein, donc, bien. Et un jour, un autre grand maître me propose de venir manifester avec eux, entre la Bastille et République, avec des cordons. Alors, j'ai décliné. J'ai répondu que je manifesterais très volontiers à titre personnel, à titre de citoyen, mais que je me refusais à porter des cordons, que ce n'est pas tout à fait dans la culture de notre obédience. Mais d'un autre côté, on m'a dit, mais alors on verra que tu n'es pas là. Et vous rendez compte, je me suis dit, mais êtes-vous assez prétentieux pour penser que les profanes entre Bastille et la République vont vous identifier à la couleur de vos cordons? Ils n'ont déjà pas le nom de votre obédience, puisque pour le profane influencé par la presse de bonne intention vis-à-vis de nous, on a beaucoup de leçons à prendre de nos ennemis, parce qu'eux, ils ne parlent pas de la grande loge traditionnelle, ceci, ils ne parlent pas de la grande loge, ils ne parlent pas de la Grand Orient, ils parlent des frères de la côte, ils parlent des trois points, des affairistes, enfin, ils nous traînent dans la boue le plus également du monde. On n'a pas d'identification formelle par rapport à nous, on est francs-maçons, donc on va faire partie de l'inévitable et incontournable complot judéo-maçonnique, puis bientôt on va nous ressortir la synarchie d'Empire, pourquoi pas. Mais on le prend en riant, mais ça devient très, très, très difficile et très prégnant, parce que c'est quand même de pire en pire. On est revenu au plus beau jour de Bernard Fay et de tous ses petits camarades. On revient à des formules. Vous savez, j'ai lu il y a quelques jours le délire total d'un futur éventuel prétendant à la présidence de la République française. Ça fait froid dans le dos. Dire que Rivarol et tout ça, c'est Radio Courtoisie, etc., ça paraît des bluettes à côté de ce qu'il lâche. Donc il se réclame de ces gens-là. Alors naturellement, ça peut être un calcul de quelqu'un qui l'encourage à parler comme ça pour essayer d'encourager les autres à le contrer plus efficacement. Bon, pour l'instant, il n'a pas réussi de signature, il n'a pas réuni de signature de notable, mais il a réuni 50 000 signatures d'une pétition contre lui. Donc ça, c'est déjà pas mal, ça fait quand même plaisir. Ce qui n'est pas le cas en maçonnerie, bien entendu. Non, Non, mais ça, c'est aussi un exemple, c'est du vécu, mais Toutes et tous ici, vous avez en mémoire la question que l'on vous pose, et je ne trahis aucun secret. Si vous reconnaissiez dans cette salle un ennemi, seriez-vous prêt à lui pardonner?
Oui.
Alors, ça n'hésite pas longtemps. Hein. 10 secondes, montre en main, on dit oui, immédiatement. Et puis après, quand on a quelques années de maçonnerie, on se rend compte qu'une formulation pourrait être différente. Ça pourrait être oui, à condition qu'il ne soit pas franc-maçon. Parce que les querelles en maçonnerie, soyons objectifs, mes soeurs et mes frères, ça existe, on ne peut pas le nier. Tout l'intérêt est dans la façon dont peut-être on va les résoudre. Mais le niveau des querelles en maçonnerie, bon, j'ai coutume d'affirmer, c'est pas trop méchant, mais pour les débutants, c'est le bac à sable, et pour les confirmés, c'est la cour de récré, quoi. Il fait rien qu'à me prendre ma truelle, lui. Ça va à peu près à ce niveau-là. Puis après, quand on y regarde les choses, si au moins on avait des discussions passionnées, passionnelles, sur les rituels à la façon de la curie romaine qui en va 500 ans, mettre 500 ans pour définir que les femmes ont une âme, bon, si c'est encore c'était à ce niveau-là, je ne dis pas que ce serait excusable, mais au moins ça aurait peut-être un intérêt de recherche. Tandis que les réflexes particuliers et les réflexes viscéraux vis-à-vis de situations qui sont des situations d'une banalité déconcertante, si au moins en tant que maçon nous prétendons avoir un petit quelque chose en plus à l'issue d'une tenue ou même quand on rentre en tenue, il se passe déjà quelque chose. Et cette façon de faire ressortir l'importance d'une chaîne d'union ce matin était extrêmement caractéristique aussi. Et c'était très encourageant parce que c'est vraiment là qu'il se passe quelque chose. C'est vraiment à ce moment-là que selon les formules, parce que les phrases diffèrent selon les rituels, mais il y a quand même des serments de main qui sont extrêmement caractéristiques. Et puis, on aura toujours en maçonnerie, ce qu'on appelle joliment par ailleurs, un chagrin d'amitié. À défaut d'avoir un chagrin d'amour, un chagrin d'amitié peut être tout aussi important, et un chagrin de fraternité, ça peut aussi avoir lieu. Mais on peut espérer, si on a la faiblesse d'y croire, gros comme un grain de senevé, comme disent certains, on peut espérer que ça puisse se résoudre peut-être plus lentement, mais qu'au bout du compte, on aura peut-être la capacité de reconnaître et de pardonner. Et je sais que j'ai assisté une fois à l'initiation au rite écossais ancien accepté de la femme d'un de mes amis, qui n'a jamais été maçon, qui ne sera jamais, mais elle a été reçue, et au moment, quand on lui a posé cette question, si vous connaissiez un ennemi dans la salle, un silence s'est installé, un silence assourdissant, comme dit la formule, mais un silence épais, comme dit Achille Talon. 1 minute et demie, pratiquement, de silence absolu. Et elle ne répondait toujours pas à la question. Elle a fini par répondre avec un effort visible, disant « Oui, peut-être que je pourrais. Finalement, peut-être que je pourrais. » Quelqu'un me dit à la sortie, « Dis donc, ta copine, elle n'est pas bien. Tu te rends compte? On lui pose la question, elle ne répond pas. » Mais justement, moi, je savais, et je ne le répéterai jamais à qui que ce soit, les raisons qui faisaient qu'elle ne se sentait pas en mesure de pardonner immédiatement. Alors, elle m'a donné la plus belle leçon de maçonnerie, et peut-être d'humilité et de véritable charité dans le sens pas chrétien du terme, mais beaucoup plus vaste encore. Une reconnaissance de l'autre, finalement, une reconnaissance possible de l'autre. Et ça, c'est tout à fait prodigieux. Et c'est un exemple que je prends à dessein, parce qu'il me semble, on pourrait peut-être le répéter, on pourrait trouver quelques circonstances où il serait bon de le répéter. De pas tout de suite, pour le principe, dire oui, oui, oui. Vous savez, quand on demande à un profane, à 3 reprises dans le cadre du rituel, êtes-vous bien librement que vous venez nous rejoindre? Là, je rappelle de Maistre, c'est pas que j'épouse toutes ces thèses, loin de là, mais quand il dit « C'est librement que nous sommes entrés dans l'ordre, on y connaît d'autres obligations que celui des volontés, ce que nous avons promis en entrant, nous devons le tenir, là se bornent nos obligations. » Ça vaut largement une thèse, ce que nous avons promis en entrant, et mes sœurs et mes frères, souvenons-nous, nous en avons promis des choses, très solennellement, que ce soit dans le cadre de tel ou tel rituel, c'est pas la notion de rituel qui est importante à ce moment-là, c'est la notion d'engagement. Et c'est surtout là-dessus, quand je dis répartir, ou ce qui n'était que réparti, c'est peut-être quelques convictions qui n'étaient que réparties, et quand on les rassemble, ça permet d'en faire le tri. Parce qu'effectivement, ce que nous avons promis en entrant, ça peut être très très conséquent, ça peut être très lourd, mais il serait peut-être bon de temps en temps de réviser le rituel pour se souvenir que nous avons promis ça, entre autres. Et ça ne laisse ouvert un champ extraordinaire à l'attention qu'on peut porter à l'autre. C'est une notion essentielle en franc-maçonnerie, l'altérité. Mais intelligemment vécue, sans se croire meilleur qu'un autre parce qu'on est dans tel rite ou que l'autre n'est pas dans tel rite, alors il a peut-être quelque chose en moins par rapport à nous. Non, il a certainement quelque chose en plus. quelque chose en plus. C'est en tout cas ce que nous plaisons à espérer en franc-maçonnerie, en visant l'impossible et en pesant sur la tradition. Et c'est là-dessus que je terminerai.